Vous écoutez RFI, il est 19h ici à Paris, 13h à Washington.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Dans 15 minutes, notre session d'info sera quasi intégralement consacrée, évidemment, aux résultats de l'élection présidentielle et la victoire de Donald Trump, tout comme l'est ce soir le grand journal du soir. Bonsoir, je suis Edwin Petrachevski.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Il signe un retour historique à la Maison-Blanche. Donald Trump a obtenu une victoire sans appel, une victoire politique jamais vue, a-t-il insisté lors de sa première prise de parole devant ses partisans. La candidate démocrate Kamala Harris fera une déclaration à 18h, heure locale. Pour l'instant, selon les chiffres de l'Associated Press, Donald Trump remporte donc 292 grands électeurs, Kamala Harris 224, il en fallait 270 au minimum pour être élu. Donald Trump est donc arrivé très largement en tête. Il est réélu pour 4 ans. Nous sommes avec notre correspondant permanent à Washington, Guillaume Nodin. Bonsoir.
Bonsoir Juliette.
C'est une défaite pour les démocrates aujourd'hui après 3 mois de campagne éclair suite au retrait de Joe Biden. Kamala Harris s'est attendue avec son discours.
Oui, à son ancienne université de Howard, le creuset des élites afro-américaines, là où elle avait organisé sa soirée électorale, qui a finalement tourné court hier soir à mesure que les résultats favorables à Donald Trump arrivaient de tous les états clés. Elle doit s'exprimer vers la fin d'après-midi ici. Elle va, selon toute probabilité, concéder sa défaite. Elle ne peut guère faire autrement. D'abord parce que Donald Trump s'est imposé très clairement et sans aucune contestation possible. Il a remporté suffisamment d'états clés et il est même bien parti pour tous les remporter. Il remporte même le vote populaire sur l'ensemble du pays, ce qu'il n'était pas parvenu à faire lors de sa victoire de 2016. Ensuite, parce que les démocrates ont suffisamment reproché au chef républicain de n'avoir jamais reconnu sa propre défaite en 2020 pour ne pas le faire leur tour venu.
Merci pour vos précisions, Guillaume Nodin, en direct de Washington.
Alors, on l'avait annoncé, évidemment, les États pivots ont joué un rôle fondamental dans cette élection et ils ont penché plutôt en faveur du candidat républicain.
Donald Trump a effectivement obtenu les deux États disputés de Caroline du Nord et de Géorgie en une poignée d'heures. Est venue ensuite la Pennsylvanie, enfin le Wisconsin, qui a enterré les derniers espoirs des démocrates. Et en Pennsylvanie, justement, plus tôt dans la journée, Christo Cacuamo, une électrice républicaine du comté de Washington, réagissait à la victoire de Donald Trump. Écoutez.
Je me sens vraiment très bien. On s'est battu pour cette victoire. On a fait du porte-à-porte, distribué des tracts, des formulaires de demande de vote par anticipation que l'on a remis aux républicains comme aux démocrates. À mon avis, ce ne sont pas uniquement les électeurs républicains qui ont voté pour Donald Trump, mais aussi des indépendants et des démocrates. Certains démocrates n'en pouvaient plus de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Le gouvernement nous a emmenés dans une direction que nous refusons. Ils voulaient changer ce que nous sommes. Mais l'Amérique fonctionne d'une certaine manière et c'est pour cela qu'elle attire autant de gens. Nous sommes un pays incroyable. Je suis tellement fière ce soir. Ça ne pouvait pas aller mieux.
Des propos recueillis par Harim Leipold. Dans son discours de victoire, Donald Trump a lancé un appel à l'unité, exhortant les Américains à mettre les divisions des 4 dernières années derrière nous. Fin de citation. Il prêtera serment le 20 janvier prochain.
Et nous serons évidemment sur RFI pour suivre cette prestation de serment. Les analyses concernant cette victoire de Donald Trump. Donald Trump qui a réussi à trouver de nouveaux électeurs, ça a été une des clés de son succès.
Écoutez, Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire, chroniqueur pour le site d'information Les Jours, il souligne que contrairement à ce qui avait été dit, Trump a su élargir sa base électorale.
Le trumpisme devient un fait majoritaire aux États-Unis. Ça signifie que Donald Trump a trouvé un remède à ce qu'on présentait comme le déclin démographique électoral du Parti républicain. Donald Trump, il a trouvé de nouveaux électeurs pour venir suppléer ces blancs non diplômés dont le nombre décroît. Il a très clairement gagné du champ chez les hispaniques, les hommes hispaniques en particulier ont beaucoup plus voté pour Donald Trump que en 2007-2020. En fait, Donald Trump a fait voter des personnes non pas en fonction de leur identité raciale au sens américain, mais en fonction de leur statut économique.
Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire, enseignant en classe préparatoire au lycée Carnot à Dijon. C'était l'invité d'Anne Cantner ce midi.
Voilà pour les commentaires, les réactions à présent à l'international. Évidemment, elles n'ont cessé d'affluer, de se multiplier toute la journée depuis l'annonce de cette victoire de Donald Trump.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a insisté sur l'importance de la coopération entre les États-Unis et les Nations Unies. Le leadership du président sera à nouveau un élément clé pour garder notre alliance forte, a affirmé le secrétaire général de l'OTAN. Et en Russie, cette phrase qui n'est pas anodine, le pays ne nourrit aucune illusion sur le milliardaire Trump, mais travaillera avec lui en poursuivant dans le même temps tous ses objectifs en Ukraine. Déclaration de la diplomatie russe. Ses premières réactions sont sous le signe de la prudence, Anissa El Jabri.
Premier signe de la prudence de Moscou, le traitement médiatique sur les chaînes fédérales. Aucune d'entre elles n'a déclenché d'édition spéciale hier soir, cette nuit et encore moins ce matin. Le sujet reste quand même bien sûr à la une des journaux télévisés, au programme des émissions de débat. Mais à ce stade, contrairement à 2016, aucune joie bruyante à l'annonce de l'élection de Donald Trump. Écoutez d'ailleurs ce qu'a dit le porte-parole du Kremlin.
Bien sûr, nous suivons de près les informations qui parviennent de l'étranger. Nous analysons les mots qui sont prononcés et nous tirerons nos conclusions sur les déclarations qui seront faites sur les sujets qui sont à notre agenda. Et nous jugerons sur les actes concrets. Ceci alors que pendant encore environ un mois et demi, le président américain en exercice continuera à assumer ses fonctions. Je ne suis pas au courant des plans du président pour féliciter Trump. N'oublions pas que nous parlons d'un pays hostile qui est directement comme indirectement impliqué dans une guerre contre notre État.
Et pour enfoncer le clou, Dimitri Peskov l'a dans la foulée fait savoir, ce mercredi, un événement est à l'agenda de Vladimir Poutine, la cérémonie de lancement d'un brise-glace nucléaire. Ce brise-glace est le cinquième d'une série qui vise à permettre la navigation dans l'Arctique toute l'année, signal implicite mais clair du maintien de la confrontation avec l'Occident. Anissa El Jabri, Moscou. RFI.
À noter aussi, côté ukrainien, la réaction du président Volodymyr Zelensky après la victoire de Donald Trump. J'apprécie l'engagement du président en faveur de l'approche de la paix par la force dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste. Fin de citation. Volodymyr Zelensky qui se félicite de l'impressionnante victoire de Donald Trump.
Autre réaction en Europe, Juliette.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à œuvrer à un programme transatlantique fort. Derrière ces félicitations, les dirigeants européens s'inquiètent de potentielles conséquences d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Conséquences sur l'évolution des relations entre Bruxelles et Washington. Les relations qui étaient déjà tendues lors du premier mandat de Trump entre 2016 et 2020.
Alors toujours en Europe, eux ont été parmi les premiers à réagir avant même que l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche soit officielle. Ce sont les responsables allemands.
Après avoir publié un message écrit sur le réseau X, le chancelier Olaf Scholz a fait une déclaration publique à la mi-journée, dans laquelle il a insisté sur l'importance de la relation transatlantique, mais aussi sur la nécessité pour les Européens de rester unis.
Il est important pour nous de continuer à utiliser nos canaux de communication avec Washington, d'établir rapidement des relations de travail avec la future administration américaine et d'harmoniser nos points de vue. Il est certain que beaucoup de choses seront différentes sous une administration dirigée par Donald Trump. Donald Trump l'a d'ailleurs toujours fait savoir publiquement. Nos messages, ceci étant dit, sont clairs. Premièrement, l'Allemagne reste un partenaire transatlantique fiable. Deuxièmement, l'Union européenne doit se serrer les coudes et agir de manière unie. En tant que chancelier allemand, je travaille en ce sens. Enfin, l'Allemagne et les États-Unis sont liés par un partenariat, voire une amitié qui s'est développée au fil des décennies. Ensemble, nous pouvons faire bien plus que l'un contre l'autre.
Et cette réaction d'Olaf Scholz intervient alors qu'une réunion des responsables de sa coalition vacillante se déroule ce soir à la chancellerie. L'élection de Donald Trump pourrait pousser les trois partis au pouvoir à se serrer les coudes, alors que l'on parlait intensément ces derniers jours d'élections anticipées.
Allez, en Italie, à présent, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, elle a appelé au renforcement du lien stratégique entre l'Italie et les États-Unis. Un lien qu'elle qualifie, enfin en tout cas les États-Unis et l'Italie, elle qualifie ces deux nations de nations sœurs.
Peu après l'annonce de l'élection du milliardaire républicain, les forces de la coalition, dominées par l'extrême droite, n'ont pas caché leur satisfaction. Elles y voient une nouvelle page pleine de promesses à écrire entre Washington et Rome. Éric Sénanque.
Les États-Unis et l'Italie sont des nations sœurs, a commenté Giorgia Meloni dans un tweet de félicitations peu après la victoire annoncée de Donald Trump, exaltant des valeurs communes avec l'Amérique. Pour la galaxie souverainiste italienne, le retour prochain du milliardaire à la Maison-Blanche est un signal plus que positif. Francesco Giubilei dirige Nazione Futura, un think tank ultra-conservateur.
La victoire de Donald Trump est une excellente nouvelle pour l'Italie. Je pense que Trump considérera l'Italie comme un partenaire privilégié au sein de l'Europe. Et de ce point de vue, cette victoire peut représenter une opportunité qu'il est nécessaire d'exploiter et de porter le mieux possible vers l'avant.
Député du parti Fratelli d'Italia pour les Italiens d'Amérique du Nord et membre du parti républicain, Andrea Di Giuseppe a confié que son pays était considéré par les conservateurs américains comme la clé de voûte de l'Europe sur laquelle s'appuyer pour l'avenir. Comme souvent, c'est Matteo Salvini qui a été le plus bavard sur les réseaux sociaux, félicitant notamment en anglais le président élu. Le chef de la Ligue a salué un jour historique, mettant en avant dans le triomphe de Donald Trump la victoire du patriotisme, du contrôle des frontières, des racines chrétiennes ou de la liberté d'expression. Éric Sénanc, Rome. RFI.
À noter également, en Hongrie, le premier ministre d'extrême droite, Viktor Orban, s'est réjoui sur Facebook d'une victoire dont le monde avait bien besoin. Et puis la Chine, elle, déclare aujourd'hui espérer une coexistence pacifique avec les États-Unis.
RFI, 19h11 ici à Paris, 13h11 à Washington. Le grand journal du soir de Juliette Pietraszewski, entièrement consacré à la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. On va poursuivre le tour du monde des réactions. Réactions à présent en France. Le président Emmanuel Macron a félicité Donald Trump ce matin et s'est dit prêt à travailler avec lui.
Oui, et après un échange téléphonique ce soir, ils ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer au retour de la paix et de la stabilité, selon l'Élysée. Et du côté de l'Assemblée nationale, chaque parti politique en tire la leçon qui l'arrange. Victorien Villaume a tendu son micro aux députés français.
Pour la France insoumise, si Kamala Harris a perdu, c'est qu'elle incarne une gauche trop molle, trop souple. Difficile de ne pas voir là un message à destination des autres partis du nouveau Front populaire. Adrien Clouet, député LFI.
Il faut une gauche qui a un programme politique de gauche, oui, de rupture. Il faut augmenter le salaire minimum aux États-Unis et pas juste à 15$ comme s'y est résolu Harris après des semaines d'hésitation. Si on veut défaire Trump dans les urnes, il faut le défaire dans les têtes. Et le défaire dans les têtes, c'est avoir des idées fortes.
Du côté de l'extrême droite, on essaie également de profiter de ce dénouement aux États-Unis pour mettre en valeur ses idées. Laurent Jacobelli, député Rassemblement National.
Donald Trump a parlé de thèmes qui parlent aux populations occidentales en général aujourd'hui. Il a parlé de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat, d'inflation, de souverainisme, de souveraineté industrielle.
Autre position, celle de la députée du Bloc Central, Éléonore Carrois, pour qui l'élection américaine envoie un signal à tous les Européens.
Les leçons pour nous, Européens et nous, Français, c'est évidemment qu'il faut accélérer la construction d'une Europe plus forte, d'une Europe souveraine. Il faut aussi voir quelles sont les leçons au niveau global et les leçons que l'on peut aussi s'appliquer à nous-mêmes sur la montée du populisme.
Une déclaration dans la droite ligne de celle du président français Emmanuel Macron.
Victorien Villaume.
Du service politique de RFI et les marchés financiers également, Juliette, réagissent à cette élection présidentielle américaine et ils semblent pour le moment se réjouir de la victoire de Donald Trump.
Wall Street a ouvert en hausse en tout cas, le dollar est au plus haut depuis un an, alors comment l'expliquer? Écoutez l'analyse de Antoine Andréani, analyste des marchés financiers chez XTB Trading.
Wall Street est un petit peu hypocrite parce que Wall Street est plus démocrate que républicain, mais par contre, si Trump gagne, Wall Street est content. Et donc, il y a toute une panoplie de ce qu'on appelle des Trump trades qui se sont matérialisés, notamment la hausse du dollar, la hausse des taux directs, des taux d'intérêt obligataires aux États-Unis. Il y a Bitcoin qui a fortement monté, donc ça aussi, c'est un Trump trade parce que Trump s'associe à Musk et est devenu aussi Trump, le candidat numéro un des cryptos de 10 parmi les politiciens. Donc tous ces Trump trades se sont matérialisés et les banquiers vont se frotter les mains.
Des propos recueillis par Arthur Ponchelet.
Et on termine ce tour du monde des réactions au Proche-Orient.
Au Proche-Orient, en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et Donald Trump ont discuté par téléphone, je cite, de la menace iranienne sur la sécurité d'Israël. C'est ce qu'a annoncé le bureau du Premier ministre israélien. Plutôt dans la journée, du côté du Hezbollah libanais, le chef de la milice chiite pro-iranienne a affirmé, je cite, que le mouvement ne misait pas sur le résultat des élections américaines pour parvenir à un cessez-le-feu au Liban. Que Harris ou Trump gagne, cela n'a aucune valeur pour nous, a déclaré Naïm Kassem. C'était juste avant l'annonce de la victoire de Donald Trump. À noter également dans le reste de l'actualité, dans cette même région, environ 120 projectiles tirés par le Hezbollah depuis le Liban ont franchi la frontière vers le territoire israélien ce jour, annonce de l'armée israélienne. L'armée israélienne qui annonce également avoir intercepté un projectile tiré de Gaza dans le sud d'Israël. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. RFI Soir continue avec vous, Romain.
Et il est 19h15 ici à Paris. Merci beaucoup, J.L. Pietraszewski, pour ce grand journal du soir. Il est 13h15 à Washington.
RFI Soir.
Et donc on en a parlé en long, en large et en travers dans le journal du soir. Donald Trump est de retour à la Maison Blanche. C'est le titre qui monopolise évidemment l'actualité ce soir, tant les conséquences sont nombreuses, importantes, économiques, politiques, diplomatiques. Toutes ces conséquences, on va les évoquer avec nos collègues du Figaro dans quelques instants. Et puis juste après, nous appellerons notre correspondant David Thompson depuis la Floride. Il a suivi la soirée électorale depuis le QG de Donald Trump. Et avec lui, eh bien, on va évoquer les chantiers qui s'imposent désormais au président élu et les enjeux immenses qui se dressent devant lui. Avant cela, on fait une petite parenthèse hors États-Unis. Voici les sports sur RFI. Avec Sofiane Amazian. Bonsoir Sofiane.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Allez le foot, parce qu'il y a du foot ce soir. Allez. La suite et la fin de la quatrième journée de la phase régulière de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui a besoin de points et qui affronte l'Atlético de Madrid.
Oui, avec 4 points en 3 matchs, Romain, le PSG eh bien, n'a plus le droit à l'erreur s'il souhaite terminer dans le top 8 et se qualifier directement en 8e de finale. Les joueurs de Luis Enrique n'avaient pas réussi à faire mieux qu'un match nul un partout lors de la 3e journée. C'était face au PSV Eindhoven. De son côté, eh bien, l'Atlético de Madrid sort d'une défaite 3-1 à domicile contre Lille. Cette rencontre sera également l'occasion pour Antoine Griezmann de retrouver le public français quelques semaines après sa retraite internationale. Lui qui a récemment franchi la barre des 400 matchs disputés avec les Colchoneros. Son entraîneur Diego Simeone, qui est sur le banc madrilène depuis bientôt 13 ans, a tenu à rendre hommage à son joueur avant la rencontre.
Je ne ressens que de la gratitude pour Antoine Griezmann. Je le connais depuis qu'il a 23 ans. À son arrivée au club, on a grandi ensemble. L'autre jour, il m'a dit qu'il avait dépassé les 400 matchs joués avec nous. On en a rigolé parce que du coup, c'est moi qui l'ai mis plus de 400 fois sur la feuille de match. Je n'ai que de l'admiration pour son travail, pour lui, pour sa façon de jouer. On l'a vu avec la manière dont il a pris sa retraite internationale, avec classe. On va donc continuer d'en profiter tant qu'il est avec nous. Et puis quand il partira, on l'accompagnera parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Atlético de Madrid.
C'est l'un des meilleurs footballistes de l'histoire de l'Atlético de Madrid.
Le PSG Atlético de Madrid, coup d'envoi 20h TU.
On a reconnu la voix de Cédric de Oliveira qui suivra ce match évidemment. De son
vous
côté,
avez tout dit.
Le stade brestois veut poursuivre lui sa campagne de rêve inattendue sur la pelouse du Sparta Prague.
Mais le club tchèque qui occupe la 24e place de cette poule unique à 36 équipes quand les Brestois sont de surprenants 7e avant les matchs du soir, mais surtout invaincus après 2 victoires contre 2 clubs autrichiens et un nul probant face au champion d'Allemagne en titre, le Bayer Leverkusen. Un parcours très inattendu pour une équipe qui découvre le très haut niveau. Alors pourquoi ne pas s'arrêter là ? L'appétit vient en mangeant, comme le souligne l'entraîneur breton Éric Roy.
En réalité, on peut déjà considérer que notre parcours, il est réussi. Je veux dire, on nous promettait pas un zéro pointé, mais beaucoup nous voyaient en grande difficulté et être difficilement capable de pouvoir exister dans cette compétition. Donc à partir de là, c'est déjà une grande réussite. Maintenant, il est évident que la pression, on garde cette même pression parce que du coup, on a l'appétit venant en mangeant, comme on dit. On a envie de continuer à performer. Donc non, la pression, elle est là et je trouve que c'est bien. La pression, elle est importante. Il faut savoir s'en servir. Et demain, il faudra le faire parce qu'on sait que cette équipe, elle va nous rentrer dedans et que ça va être un vrai match. Donc on s'attend effectivement à une grosse opposition.
Et Sparta Prague Brest, coup d'envoi également à 20h temps universel. Parmi les autres affiches du soir, Romain, Inter Milan, Arsenal, Bayern Munich, Benfica, Lisbonne et Étoile Rouge de Belgrade face au FC Barcelone.
Voilà qui est dit concernant le football. Le tennis à présent. La suite du Masters WTA à Riyad en Arabie Saoudite et la chinoise Zheng qui s'est qualifiée pour les demi-finales.
Mais la 7e joueuse mondiale qui a dominé sans difficulté l'italienne Yasmine Paolini qui est 4e. C'était ce mercredi. À Riyad, la championne olympique s'est imposée 6-1-6-1 face à la finaliste de Roland-Garros et Wimbledon. Il reste donc ainsi invaincu contre Paolini, qu'elle avait déjà battu 3 fois. Grâce à cette victoire obtenue en un peu plus d'une heure de jeu, Zheng décroche le second billet pour les demi-finales dans ce groupe violet. La numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka, ayant décroché le sien depuis 2 jours, tout comme la première place de cette poule.
Et ben voilà qui est clair et qui est complet. Merci beaucoup, Sofiane Amazian, pour ce journal des sports sur RFI 19h19 ici à Paris. Qui aurait cru que dès ce soir, dès ce matin même, le nom du vainqueur de l'élection présidentielle américaine serait annoncé? Donald Trump sera donc le 47e locataire de la Maison-Blanche. Bonsoir Yves Tréhard.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Depuis la rédaction du Figaro, alors votre journal qui consacre la quasi-intégralité de son édition à paraître demain jeudi à ce qui fait l'actualité internationale ce soir, cette victoire de Donald Trump. Et le premier enseignement, c'est que cette victoire est expresse jusqu'au bout. Les sondages annonçaient un duel très serré avec Kamala Harris, la candidate démocrate. Finalement, Donald Trump, on peut le dire, Yves Tréhard, l'emporte haut la main.
Il l'emporte haut la main, effectivement. Et pour le Figaro, d'ailleurs, c'est pas vraiment une grande surprise. On le sentait quand même très favori, effectivement. Et cette élection est très différente de celle qu'il avait portée au pouvoir en 2016, où, vous vous souvenez, il n'avait pas remporté, d'ailleurs, en 2016, le vote populaire, ce qu'il a fait, là, cette fois. Et puis, c'est une victoire, finalement, écrasante, puisque même les swing, les fameux états pivots, ont voté pour lui. Et on peut dire que le trumpisme n'est pas un accident de l'histoire aujourd'hui. C'est une réalité bien ancrée dans l'Amérique, avec cette particularité, c'est que il a réussi à attirer vers lui des votes qui n'étaient pas vraiment à l'origine, qui lui étaient pas favorables, notamment le vote des Afro-Américains qui s'est considérablement grossi en sa faveur, le vote des Latinos aussi qui s'est grossi en sa faveur. Finalement, les Latinos qui sur un plan des valeurs notamment et de l'ordre suivent Donald Trump davantage qu'ils ne voulaient suivre Kamala Harris, qui elle a fait une campagne en demi-teinte, pas très affirmée, ne sachant pas trop sur quel pied danser, finalement, si vous me permettez l'expression. Alors nous, on a envisagé évidemment de scruter ce scrutin de près, de le décortiquer. Et justement, pour montrer qu'il avait réussi à tirer vers lui des électorats qui lui étaient pas nécessairement favorables, le vote féminin dont on pouvait imaginer avec l'affaire de l'avortement qui lui tournerait le dos, il lui a tourné le dos, mais pas dans les proportions qui lui ont empêché de progresser. Et puis on l'envisage aussi, évidemment, Donald Trump sur les fronts économiques et sur les fronts diplomatiques qui nous intéressent. Alors, sur le front économique, on s'aperçoit que Wall Street applaudit pendant que les autres places boursières sont plutôt dans l'attentisme. C'est vrai que, par exemple, en Europe, on peut craindre et on peut redouter l'instauration de taxes sur tous les produits qui frappent à la porte des États-Unis. On peut redouter que la position et la politique de Trump sur le plan économique, ce soit America First, évidemment, il ne va pas s'en priver. C'était déjà une réalité sous Obama, sous Biden, mais ça pourrait évidemment se renforcer avec Donald Trump. Alors la troisième, là où l'inconnu est peut-être un peu plus grande, c'est sur le front de la politique diplomatique. En 2016, il n'y avait pas tous ces fronts qui sont ouverts aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, avec la guerre au Proche-Orient, avec une montée de la tension face à la Chine. Et on va voir comment Trump négocie tout ça, alors que là, il fait toujours un peu fier à bras en disant que, par exemple, la guerre contre l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, il va la régler en 24 heures. Donc là, on va voir comment il s'y prend, on va voir quel il l'adopte. Il est probable que, il redemande de façon assez pressante aux Européens d'augmenter leurs dépenses sur le front de la défense pour que justement les États-Unis soient moins présents, que les États-Unis soient moins présents et qu'ils dépensent moins d'argent pour la protection de l'Europe. Ça, ça paraît assez évident que ça sera un discours qui sera assez récurrent dans sa bouche.
Eh bien, les enseignements donc de cette élection présidentielle américaine et les enjeux évidemment que pose la victoire de Donald Trump, ce sera à lire dans le Figaro ce jeudi et évidemment sur votre site internet avec, je disais, une édition qui est quasi intégralement consacrée à cette actualité. Merci Yves Tréhard. Et alors que ça y est, on connaît l'heure de la première déclaration de Kamala Harris après sa défaite à la présidentielle, ce sera à 21h temps universel dans un peu plus de 2 heures. Eh bien, on va à présent s'intéresser à ce nouveau mandat donc qui s'annonce pour Donald Trump. On l'a dit, c'est seulement la seconde fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président est élu à 2 reprises non consécutivement. Et pour ça, on va rejoindre celui qui a suivi pour RFI la soirée électorale au QG de Donald Trump en Floride. C'est David Thompson. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Première question, David. Que sait-on des premières mesures qui sont envisagées par Donald Trump ?
Trump l'a dit lui-même, je serai un dictateur le premier jour. Pas de compromis et son électorat, sa base, n'est pas prête à transiger sur ses valeurs conservatrices. Les premières mesures qu'il a promis d'appliquer concernent d'abord l'immigration, l'application de son fameux slogan « mass deportation », c'est-à-dire expulsion de masse d'immigrants. Trump veut expulser entre 15 et 20 millions de personnes, c'est lui-même qui a donné ce chiffre durant sa campagne. Pour ce faire, il s'est entouré des conseillers les plus durs véritablement en matière d'immigration, deux personnalités, deux noms qui sont encore inconnus du grand public, mais qui vont bientôt être très connus. En particulier celui de Tom Homan, qui est le l'artisan de la politique migratoire de Donald Trump aujourd'hui. Son principal conseiller, Tom Homan, c'était le chef de la police anti-immigration, la fameuse ICE, redoutée pour ses méthodes ultra brutales, qui menait des raids pour aller chercher les migrants partout dans le pays au début de son mandat, et qui surtout est l'artisan de la politique de séparation des familles, qui a séparé près de 5000 enfants de leurs parents et de leurs accompagnateurs. À ce jour, un millier de ces enfants n'ont jamais été réunis. Voilà pour l'immigration. Deuxième priorité de Donald Trump, l'économie. Et pour ce faire, il veut relancer tous azimuts la production, le fracking. C'est son fameux slogan « drill, baby, drill », c'est-à-dire relancer l'extraction hydraulique de gaz et de pétrole. Donald Trump est convaincu que cela va dynamiser, injecter énormément d'argent dans l'économie, et surtout que ça va faire baisser par deux les prix de l'énergie aux États-Unis. Voilà en gros les priorités. Ensuite, on peut parler effectivement des gens qui vont composer son administration.
Alors justement, ces gens-là, qui sont-ils ? Vous avez cité Tom Homan, donc concernant les questions migratoires. Est-ce qu'on a une idée des profils de ces personnes qui vont entourer Donald Trump à la Maison-Blanche ? Est-ce que vous m'avez entendu, David ?
Allô, excusez-moi, j'ai raté votre question.
Non, la question était justement, quels sont ces profils des personnes qui vont entourer Donald Trump ?
Prenons par exemple le nom qui a été cité par Donald Trump lui-même hier lors de son discours de déclaration de proclamation de victoire, celui de Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. qui a pris position très catégorique contre les vaccins anti-Covid, qui est également considéré comme quelqu'un de plutôt complotiste. Eh bien, Robert Kennedy Jr., le neveu de JFK, Robert Kennedy Jr. sera en charge de la politique de santé aux États-Unis. Il a déjà promis aujourd'hui de supprimer quasiment le ministère de la Santé pour le remplacer par autre chose, sans vraiment expliquer ce par quoi il compte le remplacer. On peut également parler d'un autre nom, en fait, qui est un ancien de la première administration Trump, le général Flynn, qui a dû démissionner au tout début de son mandat en raison de ses liens avec la Russie, qui ont été mis au jour par l'enquête du procureur spécial Mueller lors du premier impeachment de Donald Trump. Et bien, le général Flynn pourrait faire son apparition dans une nouvelle administration Trump. Pour le dire simplement, ce sont les durs d'entre les durs, des gens qui constituent le cœur idéologique le plus chimiquement pur et le moins à même qui ne seraient vraiment pas prêts du tout à transiger. Voilà qui sont les membres, quelques exemples des membres de la prochaine administration Trump qui sont en train d'être étudiés en ce moment même, dès aujourd'hui, à Mar-a-Lago, et qui d'ici deux mois seront à la Maison-Blanche.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, David Thompson, depuis la Floride, pour Radio France Internationale, et suite à cette élection évidemment de Donald Trump à la Maison-Blanche. Maison Blanche, il sera Donald Trump, le 47e président des États-Unis. Merci beaucoup, David Thompson. Merci à vous de nous avoir suivis. RFI Soir, c'est à présent terminé. C'est Claude Battista qui était ce soir à la réalisation. Merci à lui. Mais on va continuer, évidemment, de parler de la présidentielle américaine. Ça se passe sur RFI.fr, évidemment, en même temps. Et puis, à l'antenne de Radio France Internationale, dans quelques secondes, avec les échos sur le continent de la victoire de Donald Trump. Ce sera Afrique Soir, la première édition.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
C'est un doublé historique pour les auteurs du continent africain qui, cette semaine, ont remporté les deux grands prix littéraires français. Le Goncourt pour Kamel Daoud et son roman Houri, qui revient sur la décennie noire en Algérie, et le Renaudot pour Gaël Faye avec Jacques Aranda, qui se déroule au Rwanda. Émission spéciale avec les lauréats.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU. RFI.